Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les douleurs abdominales, le fameux mal de ventre, constituent un symptôme fréquent de consultation. Et quand cette douleur ne passe pas et devient particulièrement vive, que l'on ressent comme une contraction, des frissons, on peut penser à une crise d'appendicite. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du diagnostic. Quels signes, quels examens permettent de distinguer cette inflammation de l'une de ses complications possibles, la péritonite. Une infection grave qui appelle une intervention chirurgicale en urgence. Appendicite, péritonite, deux diagnostics différents, des prises en charge qui, elles aussi, peuvent varier. Avec une tendance, c'est la diminution du nombre d'interventions chirurgicales pour les appendicectomies en France. Alors, pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui va précisément conduire le médecin à considérer que l'opération est ou n'est pas recommandé? Des explications, des réponses avec nos invités. Bien sûr, vos témoignages en direct dans Priorité Santé. Et pour vos questions, pour nous appeler, notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 61 18 46 41. À votre écoute, avec nous, dans les studios de RFI, le professeur Richard Douard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien viscéral à la clinique Bizet à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne du Togo le professeur Boyodi Tchangai, qui est chef du service de chirurgie viscérale au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Et puis en fin d'émission, on ira à Brazzaville pour un coup de projecteur sur la prise en charge d'une malformation héréditaire, le pied bot. Nous donnerons la parole au coordinateur d'un programme dédié initié par une association congolaise, coordinateur qui est aussi kinésithérapeute, Thomas Robert Memba.
Priorité santé sur RFI.
Alors, je disais tout à l'heure, en vous présentant, professeur Douard, vous êtes chirurgien viscéral. Mais précisément, toutes les personnes à qui l'on diagnostique une appendicite ne seront pas forcément admises au bloc opératoire.
La chirurgie reste le traitement de référence de l'appendicite aiguë. On a vu se développer depuis déjà assez longtemps des études sur le traitement médical. Le traitement médical d'une appendicite aiguë est possible, mais ce n'est pas le traitement de référence. Pourquoi ? D'abord, il faut que ce soit une appendicite simple, qui ne soit pas compliquée d'abcès ou de péritonite. Pour ça, souvent, il faut avoir recours à de l'imagerie, ce qui n'est pas accessible partout. Et le taux de récidive après traitement médical, c'est-à-dire que l'appendicite revienne une fois qu'on a traité médicalement, n'est pas nul. Donc ça n'est pas le traitement de référence, c'est le traitement, c'est l'alternative quand on n'a pas soit la possibilité technique de faire la chirurgie, soit que la personne est dans un état trop fragile pour être opérée. C'est donc une situation plutôt d'exception de traiter médicalement. Le traitement de l'appendicite aiguë reste la chirurgie.
Alors on va faire un petit point de vocabulaire. Appendice, appendicite, appendicectomie, c'est quoi les différences ?
L'appendice, c'est une petite excroissance située appendue à la partie droite du côlon, ce qu'on appelle le cécum, qui est juste après la jonction avec l'intestin grêle. L'appendicite, c'est l'inflammation, l'infection de cet appendice, de ce petit diverticule. Et la péritonite, c'est quand du liquide, du pus en général, va remplir la cavité abdominale et toute la cavité abdominale. Et donc la maladie, au lieu d'être localisée à l'appendice, devient généralisée à la cavité abdominale.
Alors si on pense appendicite, c'est en fonction de quoi ? De la localisation de la douleur. On a une question de Dina de Dubaï sur WhatsApp. Elle demande à quel endroit du ventre se manifeste la douleur de l'appendicite. Si on regarde, c'est plutôt à droite, au milieu, parallèle, on va dire, au nombril.
Oui, sur une ligne entre l'ombilic, le nombril, et la petite excroissance osseuse, l'épiniliaque, qui est à droite. Mm. C'est à la jonction un tiers de tiers, le point dit de McBurney, du nom de ce chirurgien qui l'avait décrit. Mais la douleur, initialement, en fait, commence au creux de l'estomac. Elle commence juste sous l'os, sous l'épigastre. C'est là où se localisent toutes les douleurs abdominales. Puis secondairement, la douleur, elle va se localiser à droite.
Mm. C'est toujours une infection ou ça peut se limiter à une inflammation ?
C'est une infection. Difficile de répondre que c'est une inflammation. Si d'ailleurs le traitement médical est utilisé et peut marcher, c'est que c'est bien une infection.
Alors, des douleurs caractéristiques, s'il fallait les décrire, on a compris où c'est situé. Maintenant, pour caractériser la douleur, ça ressemble à quoi ? Par exemple, pour distinguer d'un mal de ventre parce qu'on a mangé un aliment pas frais ou d'une douleur de règle, par exemple.
on est d'accord que la différence peut être difficile et que, vous savez, les phénomènes de santé se caractérisent par des courbes en cloche et que les deux courbes en cloche entre quelque chose qui est une appendicite et quelque chose qui n'est pas une appendicite, mais il y a effectivement des cas où ça peut se ressembler. C'est une douleur qui est constante, qui est intense et qui est augmentée à la palpation de ce point précis.
Ça ne passe pas, la douleur ?
Non, ça ne passe pas. Et quand on marche, en général, quand on passe le pas, c'est une douleur qui fait mal. Mais si on a un kyste de l'ovaire, et c'est ce qui fait que chez la femme, c'est un petit peu compliqué, un kyste de l'ovaire, notamment très dilaté ou rompu, on peut avoir aussi ce type de douleur. Donc la différence est parfois pas évidente.
Alors, le titre de l'émission, appendicite, péritonite, critères pour distinguer les deux, est-ce que c'est un degré de sévérité ou pas forcément ?
C'est un degré de sévérité et ce sont des signes cliniques. La péritonite va faire mal dans la totalité du ventre. On va bien sûr avoir généralement plus mal à droite, mais ça s'étend dans les quatre cadrans, enfin dans tous les cadrans de l'abdomen, alors que l'appendicite simple va ne faire mal qu'à droite.
Les techniques opératoires chirurgicales, elles sont les mêmes pour ces deux interventions, professeur Richard Doir ?
Elles peuvent maintenant, l'avènement de la célioscopie, c'est-à-dire de la chirurgie avec des trous, fait que on peut traiter les deux par célioscopie, mais si on ne dispose pas de cette technique qui nécessite un appareillage, ça n'est pas la même voie d'abord. Dans un cas, on va inciser en bas de l'abdomen juste en regard de l'appendice, et dans l'autre cas, on va être obligé d'accéder à la totalité de la cavité abdominale et donc de faire une beaucoup plus grande incision. Donc si on n'a pas la célioscopie, ce sont deux voies d'abord, deux façons d'opérer différentes.
Est-ce qu'il y a des péritonites qui sont diagnostiquées en l'absence, dans un premier temps, d'une appendicite ? Ou est-ce que c'est toujours une complication ?
Non, les péritonites peuvent avoir d'autres causes que l'appendicite. On peut avoir une perforation d'un ulcère, on peut avoir un diverticule du côlon qui s'est perforé, on peut avoir une occlusion qui s'est transformée en péritonite. La péritonite décrit l'inflammation de la cavité abdominale et effectivement, la cause la plus fréquente, c'est la péritonite appendiculaire. Mais ça n'est pas toujours le cas.
Alors précisément, vous avez cité ce nom compliqué, péritonite appendiculaire. Dieu sait tout, en Centrafrique, lui a été opéré deux fois il y a deux ans pour ce problème de santé. Et il se demande pourquoi, à deux reprises, il a été concerné par cette péritonite appendiculaire.
Très difficile de répondre comme ça,
bien
mais il est évident qu'il a été opéré une première fois d'une péritonite appendiculaire parce que c'est le traitement, la chirurgie, et que cette péritonite peut se compliquer d'abcès qui subsistent dans le ventre, c'est-à-dire des collections de liquides qui vont rester dans une partie de l'abdomen où les germes, les microbes se sont développés, et qu'une deuxième intervention pourrait être nécessaire pour aller compléter le nettoyage ou renettoyer une zone qui reste infectée.
Si on regarde les personnes concernées par les opérations pour ces deux indications, péritonite et appendicite, est-ce qu'il peut y avoir un critère d'âge ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous ?
Alors, il y a des pics d'âge. Il y a un pic d'âge chez les patients jeunes pour l'appendicite, mais les complications appendiculaires, il y a un taux constant tout au long de la vie. Donc, le fait d'avoir un âge adulte, ou même presque senior, on va dire, n'est pas une contre-indication et le diagnostic doit toujours être évoqué, même si, évidemment, plus on avance en âge, plus d'autres diagnostics peuvent être en concurrence.
À nouveau, une question de vocabulaire. Michel, en République démocratique du Congo, demande est-ce qu'une infection intra-abdominale est une appendicite ?
L'appendicite est une infection intra-abdominale.
Voilà, c'est la famille.
C'est la famille.
C'est la famille. Il peut y en avoir d'autres.
Mais il y en a d'autres. On peut avoir un diverticule du côlon qui s'infecte, même si ce n'est pas forcément le plus fréquent, surtout quand on est jeune. Et il peut y avoir d'autres causes d'infection intra-abdominale.
Alors, un cas concret, une illustration. On prend une première auditrice en ligne. Pour ça, on part au Cameroun.
RFI à Yaoundé.
Et en ligne avec nous, c'est Sarah. Sarah, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous appelez Sarah au sujet de votre frère qui a 22 ans. Le diagnostic pour l'appendicite chez lui, ça remonte à quand et avec quels symptômes, s'il vous plaît ?
Oui, ça remonte en 2015.
Oui.
Et en fait, un matin, il s'est levé, il devait aller à l'école. Mais il n'a pas pu se redresser. Il disait qu'il avait très mal au ventre et il fallait que, à tout prix, la maman puisse lui donner son bain. Mais la douleur continuait. Et puis on s'est d'abord dit que sûrement c'est peut-être quelque chose, une indigestion, il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais avec l'ampleur de la douleur, nous avons été obligés de prendre des précautions pour nous rendre directement à l'hôpital.
Et c'était une bonne idée d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui a été dit à ce moment? Qu'est-ce qu'ont dit les médecins?
Oui, à ce moment, les médecins nous ont fait comprendre qu'il avait une appendicite et une hernie discale et que là, il fallait automatiquement avoir une intervention chirurgicale.
L'intervention, elle a été au niveau de l'abdomen, j'imagine, pour votre frère?
Effectivement.
Donc, on l'a opéré du ventre. Et est-ce qu'il a eu des suites des opérations? Comment est-ce que ça s'est passé?
Bon, après cette intervention chirurgicale, le traitement s'est bien passé. Il n'a pas eu de récidive. Mmh. Il n'a pas eu de récidive. Mais c'est vrai qu'il a eu, peu de temps après, une gonatrite. Bon, ça n'a pas été... On ne sait pas s'il y avait un lien avec cela. Mmh. Mais le traitement, en termes de douleur, il a de temps en temps mal, mais il n'y a pas de grave problème.
Alors, Sarah, maintenant, des années après l'intervention, après le diagnostic, est-ce que vous avez toujours des questions au sujet de l'appendicite, des questions à poser au médecin qui est avec nous?
Oui, effectivement, j'ai trois questions.
Allez-y.
Voilà. La première, c'est d'abord, quelles sont les causes de l'appendicite, parce que ça nous est tombé dessus. Mmh. Et est-ce que c'est un hasard qu'il ait eu à la fois l'appendicite et la hernie discale? Mmh. Est-ce qu'il y a aussi également lieu de penser à une hérédité? Surtout que la veine, nous n'avions pas eu de signe précurseur. Et la dernière, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un autre moyen de traitement de l'appendicite, mis à part l'opération?
Alors, trois questions. La première, les causes, qu'est-ce qui peut provoquer cette crise d'appendicite chez son frère qui était adolescent? Bien sûr, pas de diagnostic à distance, peut-être des explications générales.
Bonjour madame. L'appendicite, on est assez réservé sur les causes. On évoque souvent le blocage d'un petit morceau de matière dans la base de l'appendice qui va bloquer l'appendice et faire qu'il va s'infecter. Mais ça, c'est ce qui est évoqué. En fait, on n'en sait pas grand-chose. Et c'est un diagnostic qui est fréquent, mais on peut considérer que c'est une forme de hasard. En tout cas, nous n'avons pas de cause vraiment déterminée. Il n'y a pas d'hérédité, mais c'est tellement fréquent chez les sujets jeunes qu'on peut très bien avoir plusieurs personnes touchées par une appendicite dans la même famille. Enfin, vous ne m'avez pas posé la question, mais pourquoi il a eu mal après? J'imagine que c'est une hernie de l'abdomen, donc c'est plutôt une hernie inguinal qui a été opéré, parce que la hernie discale, c'est dans le dos. Et ça, on sait que le traitement de la hernie, ça peut donner des douleurs à distance, parce qu'on retend la paroi de l'abdomen, et ça peut faire très mal, très longtemps. Ce qui est moins le cas d'une intervention pour l'appendicectomie, où une fois qu'on a enlevé l'appendice, en général, on n'a plus de douleur après. Enfin, vous posez la question de savoir si on doit forcément opérer. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure avec Caroline, on peut faire un traitement médical, mais ça va récidiver le plus souvent. Et en plus, le traitement médical est plus long, il soulage moins vite la douleur. Donc, on considère actuellement que quand on a une appendicite, le traitement de référence, ce qui doit être fait, ça reste la chirurgie.
Surtout qu'on voit là avec le frère de Sarah que 7 ans après, il n'y a pas eu de récidive. Donc, c'est que c'était la bonne indication.
Tout à fait.
Sarah, qu'est-ce que vous pensez de ces réponses? Est-ce que le médecin a bien répondu à vos interrogations?
Oui, vraiment, je suis satisfaite qu'il a bien répondu à nos préoccupations parce que toute la famille était quand même inquiète à ce sujet.
Très bien. On vous souhaite une très très bonne journée à Yaoundé. On va poursuivre notre échange, professeur. On donnera la parole notamment à l'un de vos confrères du Togo tout de suite dans Priorité Santé, Roseau et Ghetto Boy avec ce titre My People, c'est bien sûr sur RFI.
Yeah, excuse me Mr. Officer, yeah, me not have time. What you see, I see not so, yeah, what a good life. Me not see no proper love, yeah, in a long time. If you want the power, show your face on a good night, yeah. All of my people working out to see the holidays. And the struggle, hard, just to pray for better days. If the money no go come, we just to find a better way. So no don't look like say we done the crazy. Say all of my people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. Why I say? When you rise, you just the pepper them. Yeah. go they let them talk, just they pepper them. Them my up no go they bother you, just they stop on them, pon them. And the rest of them go they learn from you. All of my people working out to see the holidays. And the struggle hard, just they pray for better days. If the money no go come, we just they find a better way. So no don't look like say we done the grace. Say all of my people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. My people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. Excuse me, Mr. Officer, yeah, me not have time. What you see, I see not so, yeah, what a good life. Me not see no proper love, yeah, in a long time. If you want the power, show your face on a good night, yeah. My people working out to see the holidays. And the struggle hard, just they pray for better days. If the money no go come, we just they find a better way. So no don't look like say we done the grace. Say all of my people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. My people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil.
Priorité santé sur RFI, appendicite, péritonite, infection dans la zone abdominale. Toujours avec notre invité, le professeur Richard Douard, chirurgien viscéral à la clinique Bizet à Paris. En cas de complication de l'appendicite, surinfection de la péritonite, professeur Douard, l'un des risques majeurs, c'est la septicémie. Est-ce qu'on peut décrire des signes caractéristiques du sepsis? Parce que c'est vrai qu'il faut en parler de plus en plus. Beaucoup passent un petit peu sous le viseur. Et il faut bien s'inquiéter, donner les signaux d'alerte sur cette urgence absolue.
La péritonite, c'est une douleur dans tout l'abdomen. Donc on ne peut pas se redresser. Tout à l'heure, on a entendu, on ne peut pas se redresser. On a les muscles qui se contractent. Quand on marche, on a très mal. Donc une irritation du péritoine qui se traduit. Une altération de l'état général, on ne va pas bien du tout. En fait, c'est aussi simple que ça. La fièvre, elle n'est pas constante et il n'y en a pas besoin forcément pour s'inquiéter. On peut avoir un 38, mais on a surtout cette grande douleur dans le ventre avec cet abdomen qui se contracte. Et c'est une douleur très intense.
Très intense. On va prendre une autre question, autre témoignage. On part pour la République centrafricaine.
RFI à Bangui. 99.8 FM.
Et on retrouve en ligne Armel avec nous. Armel, bonjour.
Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde, la radio RFI.
Alors, vous appelez au sujet Armel de votre fille, elle a aujourd'hui 9 ans. Elle a subi une opération dans la zone abdominale. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour elle, s'il vous plaît?
Oui, je reviens comme ça. Là, ça fait, en fait, elle me disait qu'elle avait mal au ventre.
Ouais.
Un jour, on l'a amené à l'hôpital. On a essayé de diagnostiquer, ils n'ont pas pu trouver le mal. On a fait passer l'enfant 24 heures après. Ce n'est que 24 heures après qu'un autre médecin est venu palper seulement le ventre de l'enfant et me disait que non, l'enfant avait la péritonite. Il faut l'amener d'urgence à la chirurgie pour l'opération.
Est-ce que c'était sur le même lieu, la première consultation où il y a eu le diagnostic et le lieu où elle a pu être opérée? C'était au même endroit?
Non. En fait, on s'est dit qu'on sait le premier diagnostic qu'ils ont diagnostiqué. On sait que l'enfant avait les problèmes des reins, que l'enfant avait l'appendicite, l'enfant avait un problème de foie. Ils ont raconté ils ont parlé de long à large, quoi. Ils n'ont pas pu diagnostiquer. C'est à la suite de ça qu'un médecin est venu palper seulement le ventre. Il suffisait de palper le ventre de l'enfant. Il s'est rendu compte que l'enfant a été de la péritonite.
Ça veut dire, quand vous nous expliquez tout ça, vous êtes en train de nous dire que pour vous, on a perdu du temps, Armel, c'est ça?
Oui, on a perdu du temps parce que l'enfant a passé 24 heures dans la douleur sans pour autant obtenir un soin nécessaire pour ça.
Et vous, à ce moment-là, vous étiez convaincu qu'elle avait quelque chose de grave?
Oui, parce que en fait, ça fait 3 ans aujourd'hui. Et là, elle a commencé à faire un peu du sport. Et en faisant du sport, après la suite, elle me disait qu'elle avait, elle a mal au ventre à chaque fois qu'elle fait du sport. Mmh. Et quand elle tousse aussi, elle me disait qu'elle avait, elle avait mal au ventre.
Ça veut dire que 3 ans plus tard, elle ressent encore des douleurs, c'est ça?
Oui, après l'opération. 3 ans après, elle ressent des douleurs.
C'est est-ce que vous êtes allé consulter à ce sujet ou pas encore?
Pas encore. Mmh. Pas encore. C'est...
Et donc, vous avez des questions pour savoir s'il peut y avoir un lien entre les suites de l'opération et aujourd'hui, ces douleurs qu'elle ressent?
Oui, c'est là ma question. Ma question est de savoir, est-ce que c'est l'opération qui s'impacte encore sur la vie, de, sur la santé de l'enfant, ou c'est le sport que l'enfant a fait, parce qu'elle a fait les exercices abdominaux. Mm-hmm. C'est peut-être ça qui cause le mal à l'enfant, ou soit c'est quoi? C'est là où je me pose la question.
Professeur Richard Douard.
Tout d'abord, bonjour, monsieur. Ma question, j'ai quand même une petite question avant de vous répondre. Quel type d'incision? On a incisé en bas du ventre à droite ou on a fait une grande incision sur l'abdomen?
C'est celle de bas du ventre à droite parce qu'on a, on a coupé 7 cm de son intestin.
Ah oui, donc... Effectivement, si on a été amené à faire un peu plus qu'une appendicectomie, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, on peut avoir des douleurs séquelaires de la chirurgie quand la chirurgie est importante. La chirurgie digestive, elle donne des douleurs à distance, notamment sur l'incision, parce que la paroi du ventre a été fragilisée, et donc il faut examiner la cicatrice pour voir si elle a bien cicatrisé. Il y a aussi des douleurs internes qui existent. Ça existe, des douleurs séquelaires de la chirurgie.
Séquelles, ça veut dire des douleurs qui viennent après.
Qui viennent après. C'est possible. C'est pas systématique et je veux dire, on peut pas l'affirmer. Il faudrait l'examiner. Mais ce sont des choses qui existent, d'avoir des douleurs après une opération chirurgicale. Bien sûr, c'est possible.
Maintenant, quand ce papa Armel, bien sûr, qui veille à la santé de sa fille, lui dit du coup, ne fais plus de sport, arrête ses exercices, il faut lui conseiller quoi?
Je crois qu'il faut consulter pour véritablement être sûr qu'il n'y a pas une paroi de l'abdomen, du ventre qui a mal cicatrisé, parce que c'est toujours pas très bien d'empêcher de faire des efforts. Si la paroi est solide, je pense qu'il faut quand même essayer de continuer à faire de l'exercice.
Et y aller progressivement?
Et y aller progressivement, oui.
Vous en pensez quoi, Armel, de ces conseils? Déjà, est-ce que vous avez la possibilité de retourner consulter pour montrer la petite et puis un petit peu voir comment va d'abord la cicatrice et ensuite, peut-être, à l'intérieur, comment ça se passe?
Oui, bon, vos conseils sont les bienvenus. C'est ce que je vais faire. Dès demain, je vais faire de mon mieux pour amener l'enfant à l'hôpital pour voir ce que le médecin me dira.
D'accord.
Je tiens d'abord à dire merci à l'autre là, au docteur qui est à côté, qui vient d'intervenir. J'ai vraiment pris bon mot en ce qui concerne tes conseils.
D'accord, des conseils qui sont qui vont vous aider à avancer avec votre petite fille. On espère qu'elle pourra bien continuer à faire du sport et à rester en pleine santé chez vous à Bangui. C'est maintenant de la Guinée, hein, de Kindia, que Jeff nous a envoyé ce message sur le répondeur de l'émission au 33 761 18 46 41. On l'écoute tout de suite.
Salut, c'est Jeff, j'ai 25 ans, et depuis Kindia, Guinée-Conakry. L'appendicite, je l'ai eu en 2020, c'est arrivé un matin, je suis réveillé, j'ai ressenti une douleur immense à droite, au niveau de mon ventre. C'était une douleur qui m'empêchait de me lever et de marcher, donc j'ai été transporté directement à l'hôpital. Quand le médecin m'a ausculté, il a touché mon ventre, il a directement diagnostiqué l'appendicite. Il m'a dit de me faire opérer tout de suite. Après l'opération, tout allait bien. Mais maintenant, j'ai souvent des crampes au niveau du ventre. Bon, je me demande si les crampes sont liées à l'appendicite. Et ben, ma question est la suivante. Si l'opération de l'appendicite peut avoir des impacts au niveau de l'appareil digestif, en fait. Merci. Bonne journée à vous.
Évidemment, pour Jeff de la Guinée, pas de diagnostic à distance, professeur Richard Douard, mais ces crampes, 5 ans après l'opération, séquelles de l'appendicite, conséquences de l'appendicite, on l'a évoqué déjà tout à l'heure avec notre auditeur centrafricain, mais qu'est-ce qu'on peut dire à Jeff pour peut-être le rassurer?
Mais tout d'abord, il a été sauvé par cette opération puisqu'il avait manifestement une appendicite aiguë qui, jusqu'à un passé récent en France, était diagnostiquée quasi exclusivement sur l'examen clinique. Et ça reste tout à fait faisable, on le voit là. Si c'est juste une appendicectomie qui a été réalisée, j'ai du mal à penser que les crampes et les douleurs qu'il a au ventre, surtout si elles ne sont pas liées à la cicatrice, sont liées à l'appendicectomie.
Quand ça peut être tout autre chose.
il est très probable que c'est autre chose, parce que l'appendicectomie en elle-même, elle n'a pas de conséquences à distance sur le tube digestif. Donc, soit c'est la cicatrice qui provoque des douleurs, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'on évoque des crampes qui font penser à des contractions involontaires de l'intestin, et qui sont fréquentes. Et là, encore une fois, il faut voir un médecin, mais je ne crois pas que ce soit en rapport avec l'appendicectomie, même si, je suis à distance.
On est à distance, donc Jeff, se rapprocher d'un médecin généraliste, aller au centre de santé pour poser ces questions et voir directement ce qui pourrait vous soulager. On va partir maintenant pour la République démocratique du Congo. On va à Ilebo, précisément. Et en ligne avec nous, eh bien, on retrouve un autre médecin. Il est généraliste, il exerce sur place. C'est vous, docteur Galance Mbenganji, bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur, dans la structure où vous exercez, hein, dans cette province du Kasaï, vous constatez qu'il y a de plus en plus de péritonite. Qu'est-ce que vous observez sur place ?
Oui, ces derniers temps, nous observons de plus en plus le cas des péritonites. Pour rappel, l'épidémie s'est vue en 2011 de la fièvre typhoïde et du choléra avec des complications.
Alors voilà, tout à l'heure, depuis le début de l'émission, on parle de péritonite souvent associée à des appendicites. Là, on est dans un cas différent puisqu'on a une origine infectieuse. Hein. Avant l'infection de sa zone abdominale, on a une infection de l'organisme avec des maladies bien identifiées.
Oui, oui. Effectivement, c'est plus la fièvre typhoïde qui cause souvent les péritonites dans notre région.
Alors, dans la région, pourquoi ce sont des infections du péril fécal ? Il y a un problème particulier sur l'eau, sur l'hygiène sanitaire dans votre région ?
Évidemment, parce que la région est située entre les cours d'eau. Il y a la rivière Kasaï et la rivière Sankoro qui est aussi là. Et la population utilise l'eau des rivières comme l'eau des boissons et puis l'eau des ménages. Voilà ce qui cause beaucoup plus les maladies diarrhéiques et surtout la fièvre typhoïde.
Donc ce sont des complications d'une infection. Est-ce que vous constatez que la plupart des patients arrivent chez vous à un stade assez tardif ?
Oui, les patients viennent dans un stade tardif des péritonites avec complications et perforations intestinales. Souvent.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas pris en charge au niveau des centres de santé pour les infections initiales, typhoïde et choléra, comment ça se passe ?
Bon, dans le centre de santé, il n'y a pas de médecins, il y a des infirmiers qui prennent en charge les malades. Or, notre système de santé ne permet pas à un infirmier d'opérer.
On peut imaginer quand même qu'il y a matière à intervenir avant le stade opératoire. On peut imaginer qu'il existe quand même des maladies qui vont pouvoir bloquer, freiner l'infection. On sait que dans le choléra, c'est extrêmement compliqué, le traitement symptomatique, mais quand même, peut-être qu'on peut arriver à faire quelque chose avant ce stade de la perforation.
Oui, avant le stade de la perforation, il faut évidemment que les diagnostics soient posés. Un problème de diagnostic au niveau des postes de santé, là où les malades sont. Parce que vous savez que nous, sur place, nous ne vivons pas avec les malades. Ce sont plus les malades référés, les riverains, qui y habitent le long des rivières. Donc, ils viennent déjà, après avoir donné des antibiotiques non adaptés, et puis la fièvre a fait pendant beaucoup de jours, et puis quand ils viennent là, ils viennent en stade de complications.
Sans compter aussi qu'ils ont certainement fait aussi un tour du côté du tradit praticien qui a pu leur donner des remèdes maison.
Ah oui, oui. Maintenant, comme les maîtres symptômes dans la péritonite, c'est la douleur, comme la douleur persiste et le ventre ballonne, c'est pour cela qu'ils viennent.
Ah, ils jeûnent en plus. Donc, ça veut dire que vous, médecin généraliste dans ce contexte, vous êtes appelé à opérer des péritonites en urgence.
Oui, nous le faisons en urgence.
Comment est-ce que vous avez appris cela ? Comment est-ce que vous avez appris cette chirurgie viscérale ? Parce que c'est une question, on va dire très clairement, hein, de vie ou de mort, vous sauvez des vies. Donc comment est-ce que vous avez appris ces gestes qui sont malgré tout compliqués, notamment aussi au niveau de l'hygiène, de l'asepsie, pour éviter des complications, des surinfections post-opératoires ?
pratiquement, c'est vraiment difficile, mais vous n'avez pas à l'endroit où vous allez placer les malades, vous allez trouver la seule solution, c'est vous les médecins qui êtes là. Bon. Le pays forme des médecins généralistes à compétence générale de prendre en charge la péritonite, parce que dans les pays, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes. Et surtout dans cette province, il n'y a pas de chirurgiens spécialistes. Ce sont des médecins généralistes qui se débrouillent, bien sûr avec la formation de Médecins Sans Frontières. Ils nous ont appris, et puis ce que nous avons appris à la faculté. On se débrouille de cette manière-là.
Donc il y a un transfert de compétences qui s'est opéré. Je m'excuse, oui. Encore une question au niveau du plateau technique. Vous avez de la réanimation chez vous, dans votre hôpital d'Ilebo, dans le Kassai?
Oui, il y a certains matériels de réanimation, mais les autres, il n'y en a pas.
Mais on ne peut pas opérer les patients éveillés, comment vous faites?
Ils sont opérés sous anesthésie générale, donc à la kétamine souvent. Nous faisons dans notre région ici.
Ah oui, donc c'est vraiment, on va dire, c'est quasiment du système D, si j'ose, hein, sans aucun mépris, bien évidemment, parce qu'on a conscience des moyens limités en termes d'accès aux soins. Docteur Mben Ganji, c'est vraiment passionnant ce que vous nous expliquez. Alors, par rapport à tout ce que vous dites, cette médecine de terrain qui peut, dans certains cas, s'apparenter presque à de la médecine de guerre, on peut le dire, hein, est-ce qu'il y a un message à faire passer, parce qu'on est écouté un petit peu partout sur le territoire, pour celles et ceux qui auraient ce type de douleur, ce type d'infection, typhoïde, maladie du péril fécal, diarrhée infectieuse, faire passer aux auditeurs pour en arriver justement à ce stade ultime de l'opération chirurgicale en urgence?
Oui, le seul message, c'est la sensibilisation de la population à ne pas utiliser cette eau des rivières-là au préalable, traiter cette eau-là, et ou soit bouillir cette eau-là pour le prendre. Sinon, c'est très compliqué. C'est juste un message de sensibilisation. Laver les mains, on va démanger comme ce sont des maladies du péril fécal. Se laver les mains, ne pas utiliser l'eau de la rivière comme l'eau des boissons, bouillir de l'eau.
Est-ce qu'il y a des distributions, excusez-moi, de pastilles de chlore dans la région ou pas vraiment?
Pas vraiment. Sur place à la cité, oui, l'eau est traitée avec la régie des eaux, mais les riverains dans des villages, c'est extrêmement compliqué, il n'y en a pas.
Donc ça veut dire, on prend la grosse marmite, on fait bouillir, on laisse refroidir l'eau avant de la donner et surtout de la donner aux enfants.
Surtout ça.
Et aux personnes évidemment. Âgées, évidemment, parce et qu'elles sont plus fragiles. Merci pour ce précieux témoignage. Professeur Richard Douard vous écoute très attentivement. C'est vrai qu'on est dans une configuration extrêmement différente, mais extrêmement instructive aussi.
Ah oui, le contraste est saisissant avec les conditions d'exercice ici en France, où les examens d'imagerie prennent beaucoup de place, alors que dans l'immense majorité des cas, l'examen clinique et quelques examens complémentaires très simples vont permettre de faire le diagnostic de péritonite, d'appendicite, et on le voit dans tous les témoignages.
Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est quand on entend l'engagement personnel de ce médecin, c'est vrai qu'il y a des médecins qui diraient « Non, je ne peux pas opérer dans ces conditions-là, la question ne se pose pas, on y va, quoi. »
Oui. Mais ce sont des circonstances que l'on ne connaît pas, mais s'il fallait, je ferais d'autres spécialités si j'y étais contraint. C'est ce que fait ce confrère qui fait de la chirurgie alors que ce n'est pas son métier, mais je trouve ça tout à fait remarquable.
Vous êtes encore avec nous, docteur Mben Ganji?
Oui, je vous suis.
Vous nous suivez. Vous êtes le seul à exercer cette chirurgie sur place dans votre structure de santé ou vous avez d'autres personnes qui vous aident? Parce que j'imagine aussi que c'est tout un travail spécial, y compris sur toute l'équipe médicale. Ça couvre bien évidemment aussi les infirmières.
Oui, avec les infirmières et tout le monde. C'est vraiment une équipe qui est motivée à faire ce travail. Et les autres confrères, voilà. Donc c'est vraiment une équipe. C'est une équipe qui est motivé à faire ce travail.
Et vous avez un anesthésiste sur place ou c'est vous qui faites l'anesthésie aussi?
C'est très compliqué ici. Ici, vous êtes à la fois chirurgien, vous êtes à la fois anesthésiste au même moment.
Oui. Donc vous faites tout. J'ose pas aller vous demander jusqu'à la banque du sang. Comment vous faites quand il y a nécessité d'avoir une transfusion parce que ça peut être nécessaire?
Oui, bon, c'est un hôpital général, les labos existent. Quand vous avez une intervention comme ça, vous réservez les sangs, si nécessité, vous réservez les sangs. Et puis, si vous en avez besoin, on vous les donne, puis vous transfusez les malades.
Vous nous avez parlé tout à l'heure, hein, je poursuis parce que comme votre entretien est très précieux, on en profite. Vous nous avez parlé tout à l'heure de pics de choléra. Aujourd'hui, est-ce que votre région est complètement débarrassée de cette infection qui peut être vraiment très dangereuse?
Oui, les choléras, pour ces derniers temps, nous n'avons pas encore eu des cas de recrudescence de cette affection-là, je pense, depuis 2011 que l'équipe de MSF était là, mais ces derniers temps, apparemment, je peux dire 10 ans, nous n'avons pas eu cette recrudescence du choléra.
Dans votre hôpital local aujourd'hui, c'est quoi le principal motif d'hospitalisation? Est-ce que vous êtes toujours sur des causes assez classiques dans la région? Infection tropicale, paludisme?
Oui, c'est plus les maladies tropicales. Donc paludisme, fièvre typhoïde, choléra, et puis la schistosomiase, tout bon. Donc globalement, les maladies tropicales.
Aussi, les maladies tropicales négligées. On vous remercie infiniment. Hein, très, très bonne journée chez vous dans cette ville d'Ilebo, région du Kassai, vraiment au cœur de la République démocratique du Congo. Et on part sans tarder pour le Togo.
RFI à Lomé.
Et en ligne avec nous, professeur Boyodi de Shanghai. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, madame.
Vous êtes chef du service de chirurgie viscérale au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Est-ce que l'appendicite, c'est une opération qui est pratiquée fréquemment chez vous, dans votre hôpital?
Oui, tout à fait. L'appendicite est l'une des premières causes d'intervention chirurgicale en urgence en ce qui concerne l'abdomen. Et l'appendicite représente pratiquement le quart des affections qui sont opérées dans ce contexte.
Vous dites en urgence, ça veut dire que la plupart des interventions ne sont pas programmées?
Non, j'essaie de situer la place de l'appendicite dans les interventions qui sont pratiquées en urgence. Mmh. Mais l'appendicite reste une urgence, elle est toujours opérée dans ce contexte.
Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas par rapport à l'observation de votre pratique, que dans la plupart des cas, eh bien, ces appendicites sont opérés quasiment en stade de complication?
D'après nos statistiques, la moitié des appendicites qui sont opérés le sont au stade de complications, plus ou moins graves.
Oui. Et justement, par rapport à ces retards de prise en charge, qu'est-ce que vous avez comme élément d'explication?
Eh bien, ce retard de prise en charge est la conséquence de plusieurs facteurs, dont le premier, le retard à la présentation du malade. Mmh. Il y a une certaine part d'automédication. Et c'est cette culture un peu d'automédication qui peut délayer un peu les symptômes et faire que le patient ne se présente pas vite à l'hôpital.
Et pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, qui sont sur leur téléphone, derrière leur poste radio, quels sont les arguments que vous pourriez leur donner pour dire vraiment n'attendez pas l'urgence pour rejoindre un centre de santé?
Les arguments relèvent un peu de l'évolution prévisible, hein, d'une appendicite qui n'est pas bien traitée. Alors, une appendicite bien traitée, c'est pratiquement 24 heures d'hospitalisation et on retourne assez vite à sa vie d'avant avec très peu de séquelles. Par contre, une appendicite qui n'a pas été bien traitée parce que le patient serait venu tardivement, c'est plusieurs jours d'hospitalisation, des complications qui ne sont pas toujours prévisibles, un risque de séquelles et bien évidemment de décès.
Et un coût bien plus important pour toute la famille. Est-ce que vous avez le sentiment que les soignants sont suffisamment formés pour le repérage des cas et la bonne orientation, le référencement des patients en cas de douleur?
Oui, l'appendicite est bien connu des médecins. Et c'est plutôt le parcours médical qui est en cause. Et pour peu que le patient ne s'adresse pas à un centre de santé régulièrement inscrit, et qui ne bénéficient pas de l'encadrement du système de santé, bien sûr, ces patients peuvent avoir un parcours plus long.
Vous dites bien connu par les médecins, mais on ne voit pas forcément un médecin quand on va dans une case de santé.
Oui, c'est bien cela. C'est pour ça que je parlais de parcours de soins. Lorsqu'on a des douleurs abdominales inhabituelles par leur intensité ou par leur localisation, le premier réflexe, c'est de consulter dans un centre médical référencé par l'État.
Référencé par l'État. Mais il faut aussi compter avec les obstacles financiers, hein, professeur. On est obligé d'en parler parce que ça pèse sur beaucoup de retard, parce qu'il faut parfois même réunir l'argent avant de passer au bloc opératoire. Donc c'est un retard supplémentaire et une perte de chance supplémentaire.
Tout à fait. Passer le parcours qui peut être un petit peu long, lorsque la décision chirurgicale est prise, il reste maintenant la question du financement des soins chirurgicaux. Qui peuvent rapidement être un problème pour certains types de patients.
Un problème parce que c'est gênant d'une certaine manière. On dit aux gens, allez consulter, allez vous faire opérer. Mais en même temps, quand ils arrivent à l'hôpital, on dit, on ne peut pas vous opérer parce que vous n'avez pas l'argent. Donc là, on se retrouve dans une situation humaine et sociale absolument insupportable.
Oui, tout à fait. Cela peut être le cas pour un certain nombre de patients. Mais ici, il faut saluer la mise en place récente ici d'une assurance maladie universelle. L'espoir pour nous, c'est que cette assurance maladie couvre le plus grand nombre de patients et que le problème, une fois qu'on a indiqué l'intervention chirurgicale, que le problème financier ne se pose plus.
Donc c'est encore quelque chose à consolider parce qu'aujourd'hui, cette assurance santé universelle, elle n'est pas effective pour l'ensemble de ces soins.
Elle a ses débuts, il faut le dire, et donc nous appelons de tous nos voeux que cette assurance couvre le plus grand nombre de personnes.
De nos voeux, j'imagine que la population est avec vous pour ce projet qui est vraiment extrêmement important pour la santé publique. Un grand merci à vous, professeur Boyo de Shanghai, pour votre éclairage. Très bonne journée à Lomé. Professeur Richard Ward, c'est vrai que là, on a une vraie immersion. On a vu le fossé dans l'accès aux soins, y compris pour une, on va dire, un problème de santé aussi, entre guillemets, classique et simple que l'appendicite.
Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est frappant de voir la multiplication des examens complémentaires, même si parfois le diagnostic en France est évident, on va quand même aller vers des examens complémentaires pour donner de la une sécurité et avoir recours à des techniques comme la célioscopie, qui sont des techniques avancées et qui coûtent relativement cher, alors qu'à la base, c'est un problème de santé publique qui, dans l'immense majorité des cas, ne va pas nécessiter autre chose que d'y penser, d'examiner les patients et de prendre des décisions. On voit ce fossé qui peut provoquer des complications, comme on l'a vu, et le problème du financement de la santé, parce que quelle chance nous avons de pouvoir opérer une personne en urgence sans avoir à réunir l'argent avant.
Sans se poser la question, retour aux fondamentaux. Un grand merci à vous, professeur Richard Ward, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Très bonne journée.
Carré.
On va partir maintenant pour le Congo. Une association congolaise qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants porteurs d'une malformation congénitale. C'est le Pied-Bot. On retrouve en ligne un soignant qui s'est engagé au sein d'une association. Thomas Robert Mbemba, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, votre structure, elle s'appelle l'Association pour le développement et la réadaptation du bien-être. Et vous y êtes coordinateur du programme Pied-Bot Congo. Pour commencer tout simplement, si vous le voulez bien, Thomas Robert Mbemba, est-ce que vous pouvez nous décrire la nature, les conséquences de cette malformation pour la mobilité, pour la vie quotidienne des enfants et des adultes chez vous au Congo?
Bon, le Pied-Bot, c'est la malformation la plus courante de l'appareil locomoteur. Ici au Congo, quand un enfant naît avec un Pied-Bot, c'est beaucoup de problèmes, donc les parents se disputent, on cherche qui est sorcier, et aussi les enfants sont, dans certains départements du Congo, sont éliminés physiquement à cause de leur handicap. Donc c'est un problème important. Et aussi, le manque aussi de prise en charge fait aussi à ce que les parents sortent au désarroi. Mais maintenant, avec la méthode que nous utilisons, la méthode Ponseti pour traiter le Pied-Bot se traite et guérit à 95%.
Ça veut dire, si on vous comprend bien, vous parlez du désarroi des parents, de pratiques absolument affreuses, hein, qui consistent à se débarrasser des enfants handicapés. Bien évidemment, il faut lutter contre cela à tous les niveaux. Le premier moyen, c'est l'éducation. D'autres moyens, c'est d'offrir des possibilités médicales pour améliorer le quotidien des familles et des enfants, parce que c'est un handicap qui est invalidant, qui est stigmatisant. Vous parlez justement de ce programme de rétablissement. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appareille le pied, le membre qui est abîmé donc à la naissance par cette malformation héréditaire?
Bon, le pied beau, nous le traitons par la méthode Ponseti, qui consiste à mettre les plâtres aux enfants en soignant déformation par déformation. Parce que dans le pied beau, dans la malformation du pied beau, il y a 4 déformations, le cavus, le varus, l'adductus, le varus et les quins.
Ça veut dire qu'on immobilise pour replacer dans le bon angle ce pied. Est-ce qu'il faut que ce soit fait de manière constante et sur le long terme?
Nous le traitons chaque semaine. Donc, comme je disais, il y a 4 déformations. Et la correction que nous donnons dure une semaine. Après une semaine, on fait l'ablation. On corrige la deuxième malformation, la troisième, la quatrième. Et à la fin, il y a l'échinisme. Donc, si on met l'enfant debout, c'est évidemment pour les enfants qui marchent, le talon ne touche pas le sol. Donc, c'est ce qu'on appelle l'échinisme. Et là, on fait une ténotomie.
C'est quoi? C'est de la rééducation?
Non, la ténotomie, c'est une intervention chirurgicale qu'on fait sur le tendon d'Achille.
D'accord. Qui va permettre de détendre et il pourra poser le talon par terre.
Voilà, c'est ça. Et on pose un plâtre que l'enfant va garder 3 semaines, 21 jours, parce que le tendon d'Achille se cicatrise en 21 jours. Puis, à l'ablation de ce plâtre de la ténotomie, nous donnons un appareillage aux enfants qu'on appelle attelle pédieuse d'abduction que l'enfant doit porter jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans parce que le pied beau récidive.
Alors on comprend, c'est un programme très très complet. Pour ça, vous avez pu bénéficier de financements extérieurs. Alors pour nous faire une idée, combien d'enfants ont pu bénéficier de votre prise en charge très complète et qui concerne plusieurs villes du Congo, puisqu'il s'agit aussi bien de Brazzaville que de Pointe-Noire? Combien d'enfants concernés? Ce sera le mot de la fin.
Par rapport à la population congolaise qui est de 5 835 806 habitants, chaque année, 145 enfants nés avec les pieds beaux.
Le dernier mot, pour nous dire combien d'enfants étaient pris en charge par votre association, s'il vous plaît.
Depuis que nous avons commencé, nous avons déjà traité 850 enfants.
850 enfants, c'est donc pas négligeable du tout. Un grand bravo pour cette initiative. Thomas Robert Mbenga, du concret pour aider les enfants et les familles face au handicap. Très très bonne journée à vous à Brazzaville. Et Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Demain, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez derrière ce micro pour parler de la lutte contre la malnutrition à l'occasion du sommet international Nutrition for Growth des 27 et 28 mars à Paris pour une mobilisation, notamment à l'initiative de l'UNICEF, alors qu'un enfant sur 4 de moins de 5 ans souffre aujourd'hui de malnutrition dans le monde. À très vite dans Priorité Santé.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.